להקליד לבואה.
להקליד לבואה.
Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix, de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme. Je suis Clémentine Coppolagne, créatrice de ce podcast, chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolagne. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast, tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger 3 exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. C'est un plaisir d'accueillir le chanteur autodidacte Camille Saaglio, qui se distingue par son affection particulière pour le registre de haute contre. Camille nous fait part du lien avec la masculinité, ainsi que des réactions du public lorsqu'il chante dans les aigus. Camille Saaglio nous dévoile les fondements de sa pratique vocale, mettant en avant le feeling, l'écoute et son travail avec le sampleur qui lui a permis de développer une plus grande liberté musicale. Nous écouterons son dernier album, Les Orbes, avec le groupe Azadi, ainsi que son nouveau projet avec son frère Mathieu Saaglio. Il nous entraîne dans un voyage où les cordes du violoncelle, les cordes vocales se confondent, s'accordent et se mélangent de façon hypnotique. Nous aborderons son expérience à la tête de la compagnie Anaya, où Camille explore une multitude d'arts en mêlant sa voix à la danse, au théâtre d'ombre, au conte, au ciné-concert et à la magie. Il nous fera part de ses expériences singulières, notamment en chantant le plus souvent en langue imaginaire, transformant ainsi sa voix en un instrument à part entière, capable de dialoguer avec n'importe quel autre musicien sur des accents d'Afrique, d'Orient, de jazz, de blues ou baroque. Je vous souhaite une très belle écoute.
Bonjour Camille, alors je suis ravie de ta présence dans le podcast. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance et nous parler de l'un de tes premiers souvenirs marquants avec la voix, avec le chant ?
L'un de mes premiers souvenirs avec le chant, ça va pas remonter complètement à mon enfance parce que j'ai commencé la musique par de la guitare et du chant, j'ai toujours fait les deux en même temps. Et ça, c'est plutôt vers l'âge de 12 ans.
D'accord.
En gros. Mon souvenir quand même marquant, c'est petite affichette dans l'entrée de la salle de sport du village près de Rennes où j'ai grandi, avec un gars que je connaissais qui donnait des cours de guitare et qui avait mis une petite annonce et tout ça, et je me suis dit, oh tiens, ça, pourquoi je ferais pas ça? Et je sais pas pourquoi j'ai eu une sorte de déclic de me dire, tiens, je ferais bien ça, sachant que j'ai deux frères qui sont musiciens aussi et qui, eux, ont fait tout le parcours conservatoire, horaire aménagé, tout ça. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien essayer ça. Je me suis inscrit peu de temps après, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la musique et à pratiquer la guitare et le chant, vraiment, comme c'était des cours particuliers. Je venais avec mes chansons, à l'époque c'était Nirvana, Téléphone, des choses comme ça. Et le prof, il retrouvait les accords, j'apprenais les grilles et j'apprenais à chanter les chansons. Directement, j'ai fait de l'instrument avec du chant.
Et directement, donc sur les morceaux que tu aimais. Oui, moi je croyais que tu avais fait d'abord la guitare et après le chant, mais en fait les deux se sont mis...
Non, c'est vraiment... Après, sur les cours, c'était des cours de guitare, j'ai fait 2 ans. Après tout le reste, moi j'ai appris tout seul. Mais par contre, c'était toujours lié, quoi. Vraiment, j'ai très peu joué de guitare sans chanter en même temps.
Et même pour le chant, tu as appris tout seul?
Ouais, le chant, j'ai vraiment appris tout seul. Ça, pour le coup, j'ai développé mon chant. Et puis, il y a quelques temps, il y a quelques années, là, j'avais eu un échange avec une prof de chant classique qui m'avait vu en spectacle. Et elle m'avait dit, je trouvais ça assez intéressant, parce que j'hésitais un petit peu à l'époque, c'était en 2016, quand j'ai joué au Théâtre du Rond-Point. Enfin, moi, j'hésitais un peu à prendre des cours, et elle m'avait dit, mais non, prends pas de cours, parce qu'on voit bien que tu t'as fait à ta sauce, à toi, c'est vraiment ta patte, ta façon de faire. Et du coup, ça rend un truc très personnel et très intéressant. Et ouais, ça m'avait un peu marqué en me disant, ouais, c'est vrai que... Et puis, tant que je ressens pas, moi, de frustration ou de choses, ou de me dire, ah, ça, j'arrive vraiment jamais et tout, il faudrait que j'ai des conseils pour aller plus loin. Pour l'instant, j'arrive à aller là où j'ai envie d'aller avec le chant. Donc, je m'en contente.
Oui. Et comment est-ce que tu as fait, justement, pour développer tout seul ton chant?
Ben, alors moi, comme j'ai pas fait d'études de conservatoire, j'ai pas appris à travailler la musique. Donc, je vois bien la différence avec mes frères ou les collègues qui ont fait, eux, des études dans ce sens-là. Ils ont vraiment une habitude de travailler leur instrument, travailler leur chant, faire des gammes et tout ça. Moi, ça, je sais pas faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je joue, tout simplement. Donc, c'est vraiment en chantant et en jouant que je développe ma pratique de la musique ou du chant. C'est en explorant petit à petit des choses. Il n'y a pas de déclic d'un jour, je me dis, tiens, je vais aller explorer vraiment le chant aigu ou quoi. Mais après, c'est dans l'exploration. C'est vraiment comme ça. Donc moi, je m'inspire des gens que j'écoute, dans ce que j'écoute en musique. Et puis, petit à petit, je sens bien que les goûts évoluent aussi avec l'âge, avec le temps. On n'écoute pas toujours les mêmes musiques et tout. Et voilà, je vais avoir des périodes où je vais être très influencé par un tel type de musique ou telle région du monde, on va dire, et telle façon de chanter. Et du coup, ça m'influence. Je vais aller chercher un peu des choses là-dedans, voir un peu qu'est-ce que je peux faire qui ressemblerait sans... J'ai pas envie d'être dans l'imitation. L'idée, c'est plutôt d'aller s'enrichir un peu au contact des différentes façons de chanter et des différentes langues, quoi. J'ai pas vraiment de chemin que je suis toujours le même, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à l'expliquer, parce qu'on me pose souvent la question. Mais c'est vraiment... au fur et à mesure que j'explore des choses, au départ j'ai chanté en français, après j'ai chanté dans plein de langues différentes, et puis maintenant je chante dans une langue imaginaire, et sur le côté très aigu, c'est venu petit à petit. Je me suis rendu compte que j'avais une capacité pour pouvoir monter assez haut, puis j'ai cherché à monter toujours un petit peu plus haut, voilà.
Tu n'as pas tout le temps chanté dans ce registre-là. Avant, tu étais plus bas, ou plus dans le médium.
Oui. Avant, j'étais dans la catégorie chanson à texte, quoi. J'écrivais des textes. Donc là, j'étais dans une tessiture assez normale, on va dire, assez classique. Et puis après, c'est plutôt hein, quand j'ai commencé à chanter dans les chants plutôt colorés Afrique de l'Ouest. C'est une façon de placer sa voix qui fait que les chanteurs africains, souvent, ils chantent assez aigu. Et du coup, je pense que ça m'a développé aussi le côté aigu du chant, où je me suis rendu compte de ça. Mmh. Et puis après, j'ai commencé à pousser un peu les choses et à me rendre compte qu'effectivement, j'avais des bonnes capacités pour monter et que ça me plaisait bien. Donc après, vraiment, un déclic quand même, c'est un chanteur qui s'appelle Dafer Youssef.
Oui.
Qui est un chanteur tunisien, un joueur de oud.
Que je rêverais d'avoir dans le podcast.
J'imagine. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré sur la façon de placer sa voix pour monter. Parce que lui, il place, c'est un mélange. Moi, je dis souvent que c'est pas complètement de la voix de tête parce qu'il a quand même vraiment de la puissance et tout. Il la place un peu dans le nez, un peu là, il fait résonner. Enfin, lui, c'est un ovni. Hein. Il chante... Moi, j'essaye des fois de chanter sur ce qu'il fait. Il me manque encore des fois 2 tons, 3 tons. C'est quand même... Déjà, je trouve que je suis un petit peu haut, mais lui, il est vraiment hyper, hyper haut.
Oui. Donc, tu disais que tu aimais, quand tu avais commencé à chanter dans l'aigu, que tu avais aimé ça. Est-ce que tu as aimé au niveau du retour, qu'ensuite tu t'écoutais, tu aimais le rendu? Est-ce que tu aimais plutôt au niveau des sensations? Est-ce que tu veux bien nous en dire plus?
J'aime bien la sensation que ça provoque. Ça résonne quand même fort, parce que du coup, il faut de la puissance. C'est assez fatigant sur des morceaux qui sont très aigus tout le temps. Au niveau abdominal et tout ça, c'est bien physique. Mais du coup, il y a un côté un peu jouissif parfois, comme quand on fait du sport, par exemple. On va se fatiguer sur le moment et puis une fois qu'on l'a fait, on est vraiment content de l'avoir fait. Et là, il y a un côté un peu comme ça. Et puis, je pense qu'il y a un petit côté performance aussi qui est assez excitant. Voilà. Surtout sur des nouveaux répertoires. Les premières fois où je devais chanter sans instrument, j'étais assez terrorisé. Hein. Parce que quand on n'a rien entre les mains, alors qu'on a eu toujours une guitare pour s'accompagner ou un autre instrument, on se sent vraiment tout nu, donc c'est pas évident. Et puis en fait, une fois qu'on l'a fait, on est hyper content de l'avoir fait, c'est assez nouveau. Et puis après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'avoir l'impression d'avoir trouvé ma patte, quoi. Je pense que maintenant... Alors, je suis pas très connu, hein, mais les gens qui m'ont déjà vu en concert ou qui m'ont déjà entendu sur des disques et tout ça, et quand ils m'entendent chanter, ils me reconnaissent. Parce que, je commence à avoir une voix, quelque chose d'identifiable, on va dire, quoi. Je pense que pour tous les artistes, c'est une satisfaction. Je pense que c'est quelque chose qui vient pas forcément dès le début d'une pratique artistique. Après, il y en a pour qui ça va venir dès le début, d'autres en cours de route. Là, j'ai vraiment l'impression, moi, d'avoir trouvé mon identité de chanteur et ma patte, mon créneau, quoi, en fait, en gros. Et puis, entre ce mélange dans le chant très aigu, puis aussi maintenant, je commence à vraiment descendre dans le grave aussi, j'aime bien aller faire le grand écart. Et puis, le côté de langue imaginaire, puisque du coup, j'ai pas encore beaucoup parlé de ça, mais maintenant, moi, je chante dans une langue qui est imaginaire et que j'invente au fur et à mesure. Elle n'est pas écrite à l'avance, en fait. Les mots, on va dire, entre guillemets, que j'utilise sont spontanés et sont pas les mêmes d'un concert sur l'autre.
C'est vrai que j'en avais parlé un petit peu dans les épisodes d'André Maviel et Laïla Martial, et j'aimerais bien justement que tu nous en dises plus dans ta façon dont tu inventes ces mots d'un concert à un autre.
C'est complètement incontrôlé comme processus pour moi. Je libère complètement mon esprit de ça. En fait, ce qui me plaît, moi, là-dedans, c'est de me dire que j'ai pas à m'occuper de pas me tromper dans les paroles. Parce qu'en fait, c'est quand même un truc quand on est chanteur et qu'on a un texte à suivre. On a une part de notre esprit qui est forcément occupée par ça. Ça prend plus ou moins de place.
Oui, surtout ce que je voulais te demander, comme tu as chanté dans beaucoup d'autres langues, donc parfois des langues que tu ne maîtrises pas. Moi, je chante aussi souvent dans d'autres langues et je sais qu'au niveau de la mémoire, c'est quand même plus dur et que parfois, ça peut empiéter sur l'émotion, la musicalité, parce qu'on est pris par ça. Justement, toi, comment tu fais dans ces cas-là?
Maintenant, je le fais plus trop parce que je chante vraiment plus, quasiment plus dans des vraies langues. Donc, du coup...
T'as résolu le problème.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est plus dur à mémoriser, hein, parce que les repères, ils sont plus sur le sens. Parce que moi, je sais que j'ai chanté beaucoup dans des langues étrangères où c'était des textes que j'avais écrits en français et je les faisais traduire par des amis. Donc les mots en eux-mêmes, je savais pas vraiment quels mots j'étais en train de dire. J'avais des petits repères, mais après sur les phrases, je savais parce que c'était mes textes. Mais ça, du coup, c'est vrai que c'est pas par rapport au sens de ce qu'on est en train de chanter qu'on peut se repérer. Après, ça passe par d'autres choses. Il y a des moyens un peu mnémotechniques de se dire que voilà, on est dans tel couplet, il y a la répétition de tel mot, il y a plusieurs fois. Enfin, mais c'est sûr que ça embrouille plus. Pour moi, c'est une libération d'une part de mon cerveau de plus avoir à penser à ça. Une fois que je suis en langue imaginaire, ça veut dire que je peux être pleinement sur autre chose.
Et justement, sur quoi est-ce que tu es ?
Alors moi, je suis vraiment très axé sur la justesse. Mon objectif, c'est vraiment le plus possible, c'est d'essayer d'être vraiment sur aucune fausse note. Essayer d'être toujours dans un flux le plus parfait possible en termes d'air et de placement et tout ça. Mais sans être dans la technique, puisque j'ai pas de technique que je suis. Mais j'essaye vraiment de me concentrer à fond sur la justesse pour être le plus juste possible toujours quand je chante.
Comment est-ce que tu fais, toi, justement, avec ta propre technique ?
Bah là, c'est vraiment que du feeling. Hein. C'est l'oreille, parce que de toute façon, la justesse sur le chant, il n'y a pas grand-chose d'autre que l'oreille. Je pense que même quelqu'un qui a suivi des cours de chant et tout ça... Alors, c'est le placement par rapport à d'autres musiciens, puisque là, par exemple, je commence à jouer avec mon frère Mathieu, là, qui est violoncelliste.
Oui.
Et
on écoutera d'ailleurs un des extraits.
Il y aura un morceau.
Oui, en entier même. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit des extraits.
D'accord. Là, on fait un duo. Moi, je fais que du chant et Mathieu que du violoncelle avec un sampleur. Et donc, quand on est sur un duo archer-voix, eh ben, au niveau justesse, ça pardonne pas. Il faut vraiment être bien raccord à 100%. Donc, l'oreille, elle se base sur les musiciens avec qui je joue parce que je suis rarement tout seul sur scène. Et puis, si je suis tout seul, en général, je suis avec mon sampleur. Donc, il y a d'autres voix qui sont enregistrées et du coup, je les cale entre elles, les unes par rapport aux autres. Après, je pense que quand je suis tout seul, c'est probable que certaines fois, je lance des choses dans le vide, moi, juste sur la mémoire de ma hauteur. Et je suis pas, comme j'ai pas l'oreille absolue, c'est sûr que mon la de référence, par exemple, ça se trouve, ce sera un la bémol ou un si bémol. Et en fait, tout sera décalé, mais l'important, c'est l'harmonie globale, en fait. Donc, c'est surtout ça qui compte, c'est l'harmonisation avec les instruments ou l'harmonisation avec les voix que j'ai déjà enregistrées dans mon sample.
Confess, don't fail, 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 don't fail
Oui, parce qu'après, c'est vrai que ça peut être corporel aussi, parfois la justesse, parfois on entend bien, mais il va y avoir un manque de soutien, ce qui fait que la note va pas être complètement...
Ah bah oui, de toute façon, on sent bien entre un peu de stress où on va avoir moins d'air et moins de décontraction, les notes, elles sont soit un peu en dessous, soit faut forcer plus pour qu'elles sortent. C'est sûr que, bon, après, on apprend un peu à gérer ça aussi, je trouve, avec le temps, même s'il y a des fois, on se fait encore piéger, mais... Moi, ma technique, c'est souvent de me dire que je chante comme si mon micro était un mètre plus loin. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai un peu du stress par rapport à du public, on va avoir tendance un peu tous, je pense, à se réfugier un peu derrière le micro, la réverb et tout ça. Et moi, je le fais en me disant, bon, là, ça marche pas bien par rapport au stress et tout. Donc, chante comme si ton micro était un mètre plus loin. Et du coup, en gros, comme si je chantais derrière mon micro. Donc, du coup, ça me force à envoyer plus. Et donc, ça me libère plus.
Et t'arrives à faire abstraction des retours, même s'ils sont assez forts
Ah non, bah les retours, moi, je suis vraiment tributaire de ça. Non, mais après, quand je dis chanter un mètre de plus, c'est un mètre plus loin, c'est dans la sensation, au final.
Dans la tension, oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais, au final, je chante normalement, mais je retrouve plutôt un flux d'air et un envoi de son qui va être plus comme en répétition ou comme je devrais chanter, quoi.
D'accord. Et donc, tu disais que tu improvisais le langage. Est-ce que tu improvises les notes aussi ou uniquement le langage?
Alors, les notes, je peux. Ça dépend de comment on a construit le morceau que je suis en train de chanter. Ça arrive quand même vraiment souvent qu'il y ait des passages qui soient improvisés. Donc là, à l'intérieur de ça, je peux du coup improviser les notes et les mélodies, bien sûr. Sinon, je suis la mélodie et les longueurs à peu près de mes phrases, on va dire. Mais par contre, c'est vraiment les syllabes et les mots que je vais utiliser qui vont sortir spontanément. Vraiment, j'y réfléchis pas du tout, en fait. C'est quand ça sort, ça sort. Il y a deux, trois grilles un peu où je me dis, bon, là, j'ai envie que ça sonne plutôt un peu comme si je chantais en arabe, d'autres fois plutôt un peu Afrique, d'autres fois plutôt j'en sais rien, d'autres fois plutôt turc, un peu kurde, voilà, aller casser un peu la voix. Ça, c'est des accents, mais sinon, vraiment, sur les mots, je le fais vraiment sans réfléchir maintenant, en fait. Et puis, ça se passe bien, donc du coup, je m'en occupe pas. Par rapport à ce que ça m'a apporté, le fait de chanter en langue imaginaire, quand même, un volet hyper important, et ça, je m'en suis pas rendu compte dès le début, c'est que ça me permet de jouer avec n'importe qui, en fait. Parce que mon chant devient un instrument par entière. Il y en a qui arrivent à improviser des textes avec des vrais mots et tout ça, mais en impro, qui se calent sur les musiciens. Et ça, chapeau bas, moi je suis incapable de faire ça. Mais là, c'est une pratique vraiment particulière. Mais sinon, un chanteur qui va aller vers des musiciens et qui va arriver avec ses textes et ses chansons, c'est plutôt lui qui va s'imposer parce que son texte, il a une longueur, il a un rythme, il a une signification en plus. Donc, il va des fois un peu s'imposer lui par rapport aux musiques des musiciens, quoi, aux instruments. Alors que du coup, moi, dans ma pratique maintenant, moi, je peux m'adapter comme je fais un peu ce que je veux en termes de couleurs et puis les mots que je vais utiliser. Moi, je m'adapte et du coup, là, je me suis rendu compte que je joue maintenant avec des musiciens avec qui j'aurais sans doute pas joué en étant resté avec mes textes dans les chansons. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, c'est hyper épanouissant parce que ça veut dire que je peux vraiment aller jouer avec n'importe qui et puis même sur de l'improvisation comme ça. Je suis plus comme comme une trompette ou une flûte qui va pouvoir aller s'adapter à ce qui est à l'instrument qui est ou la musique qui est en train d'être jouée. L'instrumentiste va ramener, lui, ses mélodies et son instrument et tout ça. J'ai vraiment vu la bascule une fois que j'ai commencé à développer ce chant en langue imaginaire. Et ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes, du coup, quoi.
Très intéressant. Et je voulais savoir, donc toi, tu as étudié les langues à la base, tu as même enseigné le français à des personnes qui venaient de l'étranger. Est-ce que tu as remarqué que tu abordais le placement du son et la résonance différemment en fonction de la langue que tu chantais quand tu chantais dans d'autres langues ou maintenant quand tu t'inspires d'une langue pour créer ton langage imaginaire?
Ah bah complètement, ça c'est sûr que pour les langues, même si elles sont pas chantées en fait, la langue qu'on parle, elle fait utiliser notre appareil vocal de manière différente. On dit souvent que les Espagnols par exemple, on trouve qu'ils parlent fort, moi j'ai des Espagnols dans ma famille, donc du coup... on connaît, mais c'est aussi parce que, en fait, eux, ils ont plein de voyelles ouvertes. C'est beaucoup de O, de A. C'est des voyelles qui projettent beaucoup. De fait, on parle plus fort quand on a plus ces voyelles-là que nous, nos petits E, nos petits U, nos petits... voilà, et on a la bouche toute fermée.
Langue assez fermée, oui, le français. Oui.
Donc ça joue. Ouais, les langues, elles nous font se placer différemment entre le nez, la gorge. Après, moi, je suis pas très très technique. C'est vraiment plus à l'oreille et après de comment moi j'essaye de le reproduire pour voir un peu d'où ça sort, quoi, tout ça. Mais c'est sûr que oui, la langue, ça influence beaucoup sur le placement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux langues d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et les chanteurs et tout, la façon dont ils placent leur chant via leur langue fait que du coup on peut monter plus facilement parce que ça va moins, je sais pas, ça racle moins en fait, et du coup on est moins en force pour monter.
Ah oui, puisque tout à l'heure tu avais dit que quand tu étais dans l'aigu tu sentais que ça résonnait fort. Alors après il y a des endroits hein, qui résonnent plus ou moins de la même façon sur certaines notes chez tout le monde, mais après aussi selon le physique de tout à chacun ça change, et puis selon la technique qu'on a eue, toi où est-ce que tu sens le plus les résonances?
Physiquement, tu veux dire?
Oui.
Je saurais pas dire, ça dépend un peu, mais clairement dans la tête ça résonne quand même fort parce que c'est là qu'on a les oreilles et tout, et donc ça vibre. Moi ça m'arrive de assez souvent d'avoir une main sur une oreille pour bien m'entendre. Donc là dans ces cas-là ça fait une caisse de résonance qui est bien marquée. Après c'est moi je trouve beaucoup quand même au niveau du ventre parce que mais là c'est plus au-delà de la résonance, c'est vraiment plus au niveau de la tenue et au niveau musculaire que ça vient. Voilà, faut aller un peu.
Tu mets l'énergie, oui.
Ouais. Faut se soutenir un peu là, de par là, quoi. Donc.
Oui, tout à l'heure, donc tu disais que tu étais heureux d'avoir trouvé vraiment ta patte et ton identité vocale. Tu disais que ça venait pas forcément de suite. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les auditeurs qui sont chanteurs, qui nous écoutent, pour trouver son identité vocale?
Je pense que ce qu'il faut, c'est être curieux, quoi. Écouter plein de façons de chanter. Depuis longtemps maintenant, j'écoute beaucoup de musique étrangère. Et donc ça, je pense que de fait, ça ouvre peut-être encore plus la palette de chants qu'on peut avoir. Même si, en écoutant de la chanson française, il y aura plein de façons, plein de voix très différentes et tout ça. Je pense que c'est la curiosité d'aller voilà, découvrir plein de façons de chanter différentes, plein de façons de se placer. Et puis, la curiosité d'aller chercher dans ses propres capacités. Il faut aller chercher ce qu'on est capable de faire. Et des fois, on s'en rend pas forcément compte. Pour moi, c'est vraiment un peu de l'exploration, quoi. L'autre fois, par exemple, j'ai eu un retour sur un concert et ça m'a vachement touché. Et il y a quelqu'un que je connais qui a organisé le concert et qui me disait « J'adore ton rapport à la masculinité par rapport à ton chant, hein, tout ça, quoi. » Et c'est vrai que pour les hommes, par exemple, il y en a pas mal qui vont pas forcément oser aller chercher de l'aigu, qui vont se limiter ou pas oser le faire ou pas, voilà, avoir un peu peur des réactions et tout. Moi, les premières fois où je chantais... aigu et tout, j'étais un peu en stress quand même, hein, clairement, de me dire bon, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Et puis en fait, maintenant, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais ça et que je fais presque plus que ça, même si j'essaye d'alterner et je suis hyper tranquille. Même je fais du ciné-concert devant des enfants. Alors les 3 premières notes, évidemment, ça rigole un peu et tout parce que ça surprend. Et puis en fait, assez rapidement. On leur en met plein la vue et du coup ils sont épatés, mais mais en plus je me rends compte que ça touche vraiment les gens, le fait qu'un homme chante aigu, je trouve que ça touche plus que de chanter dans sa tessiture plus naturelle. Enfin, je vois bien dans les retours après les concerts et tout où les gens sont assez touchés par ça, quoi. Donc voilà, je pense que faut aller explorer ce que les autres font. Je pense qu'il faut. De toute façon, la musique, c'est toujours une question d'inspiration de tout ce qu'on écoute, hein, de notre vie. Et puis après, faut refaire sa propre sauce, sa propre tambouille avec tout ça. Et puis, explorer ses possibilités à soi. Alors, je pense qu'il y en a qui le feront peut-être plus avec des profs, qui auront plus besoin de quelqu'un qui va les guider là-dedans. Je crois qu'il y a plein de stages qui existent, de gens qui travaillent sur la voix, sur des exercices pour ça et tout. Et puis d'autres qui vont le faire tout seul, en fait. Je pense que le sampler, par exemple, c'est un bon outil pour ça. Parce que du coup, ça permet d'aller enregistrer des boucles de quelque chose et puis de rajouter une autre boucle par rapport à ce qu'on a déjà enregistré de nous et puis du coup d'aller chercher autre chose. Et moi en fait j'ai trouvé un nouveau sens au chant où le chant n'était plus juste que porteur de sens en fait, et que du coup le chant il peut devenir, comme je disais tout à l'heure, vraiment un instrument et ça peut devenir rythmique. Moi j'ai développé un peu un truc où je fais une sorte de trompette là avec ma bouche et avec les doigts, et qui est devenu, bah, je pense que c'est un peu moi qui fais ça maintenant, et j'adore faire ça parce que du coup là les gens ils ont l'impression d'un coup qu'il y a une trompette sur scène et tout, et c'est vraiment chouette à faire quoi.
Qu'est-ce que tu aurais envie d'explorer vocalement que tu n'as pas encore testé? Est-ce qu'il y a des effets vocaux ou stylistiques que tu aurais envie d'expérimenter dans les années à venir?
Dans le duo qu'on a monté avec mon frère Mathieu, fait des reprises. Il y a la reprise de la chanteuse Lassa, qu'on reprenait déjà avec Azalie et qu'on reprend avec mon frère. Et puis, il y a aussi une reprise de Strange Fruit, qui est la chanson de...
Billie Holiday.
Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je connais plus la version de Nina Simone, mais...
D'accord.
Mais voilà, qui est vraiment une très belle chanson. Mm. Et qu'on reprend donc juste violoncelle en pizz et puis voix. Et là, du coup, je chante en voix de poitrine et en anglais. C'est assez chouette à faire. Et c'est sympa d'y revenir. Pour moi aussi, j'ai l'impression de revenir aussi à un chant ou une voix plus naturelle. Et ça fait aussi du bien. J'aime bien varier, en fait, avoir une palette assez riche. Je trouve ça vraiment important, quoi, moi, dans ma pratique. Dans un concert, j'aime bien que ça parte un peu dans plein de sens différents et dans plein de couleurs différentes. Quoi.
Oui, d'ailleurs, tu fais plein de projets dans plein de sens différents. Tu alternes des grandes scènes ou concerts privés avec l'un de tes frères. Tu as même fait, donc tu faisais référence tout à l'heure au ciné-concert avec le film Crin Blanc. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que ça t'apporte, toute cette diversité de projets?
Je ne m'ennuie pas avec ce que je fais, avec mon travail, parce que le fait de varier... les contextes, varier les collègues, varier les styles, même si je fais tourner plusieurs fois les mêmes spectacles, évidemment, mais il n'y a pas de monotonie, quoi. Les choses bougent et changent et on ne fait pas toujours la même chose, donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis moi, j'ai toujours aimé les artistes qui ne restent pas dans leur case, en fait, qui surprennent, même si des fois, ils vont à des endroits qui nous plaisent moins. Je sais pas, un artiste, par exemple, comme Bachar Markhalifé, il va dans tous les sens, quoi. Et lui, il y a des albums de lui que j'aime vraiment pas trop, quand il est pour rock et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais dans sa démarche, je trouve ça vraiment chouette, parce que je me dis, bon, ben voilà, il reste pas dans son créneau qui fonctionne et tout ça. Ou d'un groupe comme Radiohead, par exemple, qui a fait un gros virage électro à un moment. J'ai trouvé ça tellement courageux, tellement... Puis moi, j'ai adoré en plus ce qu'ils ont fait. Mais je me dis, c'est super, parce qu'ils étaient déjà dans une veine qui marchait et pouvaient continuer là-dessus encore pendant des années et tout. Et puis non, ils sont allés chercher autre chose et tout. Donc, moi, ça me plaît. Du coup, ça me plaît que les artistes que j'écoute fassent ça. Mais du coup, je le fais moi-même, j'essaye de le faire. Après, je pense qu'on reste toujours ce qu'on est en tant qu'artiste. Donc, moi, il y aura toujours un truc qui sera du... Je ne veux pas faire autre chose que du Camille Saglio. Mais quand même, j'essaye de pas être là toujours où on m'attendrait, quoi. Donc là, je viens de sortir un nouveau spectacle qui s'appelle Pierrot, qui est autour d'un texte de Daniel Mermet. On est quatre sur scène, mais il y a un musicien avec moi, qui est Gurvan Lelgualch, qui joue déjà avec moi dans Azadi, qui est bassiste et batteur. Et donc là, avec la batterie, la basse, on sample des choses et tout. On est parti aussi sur des choses très rock, quoi. Je mets une pédale de disto sur ma guitare classique et tout. Et puis après, c'est du rock avec des envolées où je vais monter hyper haut dans la voix et tout. Donc voilà, ça. J'aime bien varier les styles, varier les plaisirs et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quoi.
Dans mon sac. J'ai mis une chemise blanche pour l'enterrement de Pierrot. Il me reste une heure avant de partir pour Nantes. Je vais la passer à ne rien faire. Seulement à penser à nos années ensemble, à petites gorgées. Je l'ai revu avec sa panhard jaune coupé sport. Une carrosserie en polyester et un moteur à deux cylindres. Un vrai cinglé de mécanique. Un bout de Rimbaud, chopé à 15 ans sur un quai de métro. On peut pas se contenter seulement de gagner sa vie. On peut pas se contenter seulement de la vie. Le Che était mort en Bolivie. C'était le centenaire de la commune. On lisait le même livre et on se le racontait jusqu'au matin. Kerouac, Dostoïevski, la petite collection Maspero, Ginsberg, Fahrenheit, Little Nemo, Res Bunny, les années-lumière. Pierrot rêvait de la forêt des morts et des tortues de la gare de Fresnay. On sortait une autre bouteille avec une clé à sardine chauffée sur le gaz. Pierrot ressoudait un fil de l'électrophone et le disque repartait. Entre, Dédé. Assois-toi, bois un coup, Dédé. Non, il n'entre pas. Qu'est-ce qui t'amène, Dédé? Voilà, c'est la pompe.
Un livre dans la poche, un croquis dans l'autre, il avait déjà sa boîte à outils pour refaire le monde. Une façon de parler en marchant, de rigoler trop fort avec sa dent de traviole. À 14 ans, il réparait les voitures des voisins. Son père était au Parti communiste. Je crois revoir leur maison dans une rue qui monte. Et sur le trottoir, Pierrot, couché sous une voiture, avec ses pieds qui dépassent.
Voilà qu'une autre vie est possible. Voilà que la vie est possible. Tu vois, Pierrot, on n'est plus tout seul maintenant. Nous ne sommes rien. Soyons tout. Des vies obscures. Asservi, soumise au métro, boulot, dodo, soudain s'empare de la rue et parle, parle.
Donc je sais pas où je serai dans quelques temps en termes de chant, quoi. Voilà, j'aurais sûrement d'autres idées de me dire « Ah ouais, ça en fait c'est cool et tout.
» Est-ce que tu as remarqué que les différents contextes, les différents projets et les lieux aussi avaient une incidence hein, sur ta voix ou sur ton interprétation ?
Je suis assez dépendant de la technique parce que je chante dans un micro et j'utilise beaucoup les réverbes. Je pense quand même comme beaucoup de chanteurs, hein, mais du coup, on est vraiment tributaire du système son et du coup de la salle. Et c'est sûr que moi, j'ai toujours besoin de faire des balances où je chante pour de vrai, quoi. Je peux pas juste faire quelques notes et puis commencer le concert. J'ai vraiment besoin que mon oreille, elle s'adapte au système son, à la salle. Alors, j'ai la chance de travailler presque toujours avec les mêmes collègues au niveau du son, qui sont d'excellents techniciens. Donc, ils me connaissent bien. Déjà, je leur fais pleinement confiance sur le son dans la salle et en plus ils connaissent mes besoins dans les retours et le type de son dont je vais avoir besoin ou de...
Oui, c'est bien.
Et on sait se parler aussi quand il y a des trucs où je vais dire « Ah là, j'arrive pas, il y a tel truc ». Parce que la voix, comme ça sort que de nous et pas d'un instrument, bah c'est vrai qu'on a besoin d'être confort. Il y a besoin que, mais ça je pense que c'est valable pour tous les instruments, mais que d'avoir la sensation qu'on fait un truc de beau, quoi. Et c'est hyper dur de chanter avec un son dégueu dans les retours ou si on s'entend pas ou quoi. Alors après, des fois, on le fait parce que pas le choix et on prie pour que dans la salle, ce soit bien. Mais je trouve ça vraiment pas évident. Et moi, j'ai vraiment besoin de m'adapter. Enfin, pas de m'adapter, mais de me couler dans le son qu'il y aura dans la salle où je joue ce jour-là ou ce soir-là, quoi. De temps en temps, moi, j'ai fait quelques expériences dans des églises ou dans des lieux, on a fait avec mon autre frère Gabriel, on a fait un concert 100% acoustique dans une vieille chapelle où il n'y avait pas d'électricité. Et là, c'est la seule fois où j'ai fait vraiment un concert entier en acoustique pure et c'était assez chouette parce que, alors, il y avait une bonne réverb, hein, on se basait bien là-dessus, mais du coup, là, c'est très différent parce qu'il n'y a même pas à chanter dans un micro et tout, donc c'est une sensation qui est vraiment différente. C'est peut-être une piste que j'explorerai justement un jour ou l'autre, quoi. Alors c'est pas forcément sur les couleurs, mais plutôt d'aller chercher des lieux qui sonnent d'eux-mêmes en fait, et de pouvoir jouer avec ça au niveau de la voix, quoi.
Après, c'est vrai que c'est très 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 agréable de chanter dans des églises. La seule contrainte, je trouve, c'est au niveau du rythme. On est souvent obligé quand même de faire des morceaux assez lents pour pas que ça tourne trop et que le son soit un peu noyé.
Oui, c'est sûr que c'est le danger, l'inconvénient de l'avantage, on va dire. mais ça, bon, ça dépend des églises. Justement, il y en a qui sonnent un peu, mais pas trop. Et ça, en général, c'est bien agréable. Mais après, moi, ça m'arrive quand je suis en rando, en balade, de rentrer dans une église et de tomber sur une église qui a une acoustique qui sonne à fond. Et du coup, j'aime bien, dans ces cas-là, chanter tout seul, comme ça, en a cappella, et de laisser résonner les notes et tout, d'aller chercher. C'est chouette.
Oui. Et comment est-ce que tu te sens juste avant de monter sur scène?
Moi, je suis plutôt du genre décontracte. Là-dessus, on n'est pas tous égaux. Je vois bien dans les gens avec qui j'ai pu travailler déjà, ou avec qui je travaille, il y en a qui sont... c'est même pas une question d'âge ou de durée. J'en ai connu qui se passaient à fond, qui avaient le track à fond, et après ça s'arrête. D'autres qui continuent à avoir le track un peu sur scène. Donc là-dessus, on n'est pas égaux. Moi, j'ai plutôt tendance à être décontracte en général. Et je me rends compte qu'au niveau du chant, encore plus, je trouve qu'avec un instrument, la décontraction et la confiance en ce qu'on est capable de faire, c'est vraiment hyper important. Enfin, c'est quelque chose qui peut vraiment pousser la donne. Si on se fait pas confiance, si on est en stress et tout ça, au niveau du chant, c'est un truc qui pardonne pas. Alors des fois, c'est un peu... j'adore chanter et être chanteur et tout. Et d'autres fois, je me dis, oh, quel instrument un peu... à la con, parce que en fait, dès que t'es en stress et tout ça, ça s'entend vachement. Enfin, j'ai l'impression que ça s'entend plus que si on va jouer, je sais pas, du violoncelle ou de la guitare, même si je pense que c'est faux, parce que on aura besoin de décontraction aussi sur un instrument, mais quand même, il y a un truc, comme ça sort d'un corps qui va être stressé, le son qu'on émet, il vient de ce corps-là. Ça peut m'arriver sur des nouveaux projets d'être un peu en stress. Mais en général, ça dure pas très longtemps et puis c'est assez rare. Donc dans ces cas-là, moi j'ai des petites techniques un peu de respiration, de vraiment de poser tout ça et puis de ralentir bien le rythme cardiaque, quoi.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir chanter lorsque tu étais malade et donc touché au niveau de la voix? Comment est-ce que tu as fait dans ces cas-là?
Ça m'est arrivé une fois. De vraiment faire un concert où j'étais très empêché, et du coup j'ai eu un ou deux morceaux on n'a pas joué, du coup, quoi, que vraiment je savais que je pourrais pas monter et que je serais pas assez confort. Après, ça peut m'arriver, mais c'est quand même assez rare. Déjà, je suis quand même pas très malade de manière globale, et en plus je pense que quand même au niveau de l'esprit et tout, on se blinde un peu. Faut qu'on soit sur scène, on peut pas être malade. On est souvent les artistes malades quand on est en vacances, quoi, parce que là le corps se relâche et tout ça.
Oui, c'est vrai.
mais c'est sûr que ça m'est arrivé d'être dérangé un peu. Dans ces cas-là, moi j'achète des sprays aux huiles essentielles, là, des trucs qui sont bien. Puis j'ai des petites techniques un peu costauds de mélange de gingembre, poivre, curcuma et miel. Là, ça chauffe bien.
Ah oui, avec du poivre. Parce qu'en général, le poivre, c'est plutôt déconseillé pour la voix.
Alors, c'est plus en fait au niveau... Quand on commence à être enrhumé, on sent que ça commence à s'enrayer un petit peu, à être un peu chargé au niveau ORL et tout. Alors, on peut faire ça, c'est une cuillère à café de poivre, une de gingembre moulu, une de curcuma, et puis deux de miel, parce que ça fait passer un peu. Il faut mélanger, ça fait une pâte... jaune hyper forte, et puis après faut manger ça, et c'est un peu costaud, mais ça dégage vraiment, voilà, comme ça chauffe et tout, ça fait vraiment du bien.
Donc à tester.
Après, faut surtout boire beaucoup d'eau, en fait. Je trouve que c'est vraiment la base, c'est vraiment d'avoir toutes les cordes vocales bien hydratées et pas sèches et tout ça, et de boire beaucoup d'eau avant et même pendant. Après, c'est vrai que l'hiver, moi je tourne beaucoup l'hiver.
Oui.
L'hiver, bah, c'est toujours une période un peu stressante pour ça, quoi. Moi, j'ai toujours un truc autour du cou. Dès que c'est, on arrive au mois d'octobre jusqu'en avril, j'ai toujours un chèche ou un truc, un foulard.
Oui.
Est-ce que tu veux bien nous parler de l'album Les Orbes avec le groupe Azadi?
Azadi, Les Orbes, donc c'est notre tout nouvel album, le deuxième album qu'on a sorti et qui est sorti en mars 2023. C'est un album qu'on a enregistré à Rochefort, au bord de la mer, près de La Rochelle, dans un beau studio, un ancien cinéma où il y a un super piano, un Fazioli qui est super piano italien. Wow. Voilà, ça fait partie des critères pour Azadi d'avoir un endroit où il y a un vrai beau piano dispo et tout ça. Donc, c'est pas dans tous les studios.
Ah, ils ont leurs usines à Venise.
Sur cet album, on a eu le plaisir de pouvoir inviter Eric Truffaz sur un morceau qui est un peu particulier parce que il est un peu couleur hip-hop. Ça s'appelle la 39e session. Parce que, en fait, on s'est inspiré d'un discours de Thomas Sankara, qui était président du Burkina Faso, et qui a tenu ce discours-là en 84 aux Nations Unies. Et c'est un discours assez incroyable, qui serait encore d'actualité, où il dénonce vraiment les méfaits de la vision tiers-mondiste et tout ça, des choses. Ça, c'était, un an ou deux ans avant qu'il se fasse assassiner, à cause, justement, de ces idées-là un peu trop progressistes. Et donc nous, on a pris des extraits de ce discours. Alors il est très particulier ce discours, au-delà de ce qu'il dit, parce que il a une diction qui est vraiment toujours la même et toujours le même rythme. Donc c'est assez incroyable quand on veut le mettre en musique. C'est hyper facile, c'est comme s'il y avait un métronome, quoi. On s'est basé sur ces extraits-là qu'on a choisi. On a pris des extraits parce que le discours dure une heure au total. Et puis on a construit une musique autour de ça, et on a invité Eric Truffaz à venir avec sa trompette pour agrémenter tout ça et nous faire ses mélodies. Et il est parti sur une trompette couleur un peu hip-hop, avec une sourdine très cuivrée et tout ça qui nous a un peu surpris au début et qui en fait qu'on trouve vraiment vraiment très chouette.
Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde. Et dire, même si je n'arrive pas à le faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Thank you.
proclamons que désormais, au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable, décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentats à notre cœur et à notre dignité. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dis, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, sans aimer, mais également au nom de tous ceux qui ont mal. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire.
Le morceau d'introduction que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Incantation, qui est un morceau que je vous invite à aller voir sur internet, puisqu'on en a fait un clip aussi qu'on a tourné avec un danseur qui s'appelle Pedro Hurtado, qui est un danseur équatorien.
Oui, puisque tu es très inspiré par la danse, j'ai l'impression.
Azadi, c'est une musique qui laisse de la place pour autre chose. Le départ de Azadi, c'était avec Madeleine Cazenave, qui est pianiste, et moi, on était tous les deux sur un projet qui s'appelait Nous Rêveurs Définitifs, qui a joué pendant un mois au Théâtre du Rond-Point à Paris, donc qui était monté par trois compagnies, la compagnie 1420 qui fait de la magie nouvelle, après la compagnie de mon frère Étienne, et puis la compagnie de Yann Frisch. Ce spectacle était sous forme un peu de cabaret, cabaret de la magie nouvelle, donc très très poétique, très poussé au niveau technique et tout, enfin vraiment impressionnant, un très très beau spectacle.
Est-ce que c'était avec aussi l'un de tes frères, puisque je crois que tu as un frère qui est magicien?
Étienne, ouais, c'est ça, Étienne Saglio, ouais. C'était lui, il faisait partie des artistes voilà, qui intervenaient sur scène. Et en fait, donc il y avait des numéros qui s'enchaînaient comme ça, et nous, avec Madeleine, on faisait la musique de ces numéros. Donc soit on était tout seul en alternance, soit on était tous les deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à composer des morceaux pour l'occasion. Après, une fois que ce spectacle est passé, qu'on a joué pendant un mois, on a eu envie de monter un projet autonome et qui fonctionne sans ce spectacle-là. Donc c'est là qu'est né Azadi. Mais c'est aussi pour ça que notre musique, elle laisse la place à d'autres choses, notamment par rapport au fait qu'il n'y ait pas de texte. Parce que du coup, les gens sont pas en train d'écouter et de comprendre ce que moi je suis en train de chanter. Donc ça, je pense que ça libère une partie, en tout cas, de l'esprit de l'auditeur. Et puis, le style de musique qu'on fait. On fait des morceaux assez longs, assez contemplatifs sur certains aspects et tout ça. Ça laisse de la place pour d'autres disciplines. Et notamment, la danse. Mais on a aussi travaillé avec Philippe Beau qui fait des ombres chinoises, des ombres manies. On a fait des concerts avec lui où il était invité et on a un écran derrière nous et lui, il vient avec juste ses mains et un projecteur et il fait des ombres chinoises. C'est quelqu'un qui fait des choses incroyables. Il fait partie des 20 meilleurs ombromanes du monde. On a pu faire plusieurs spectacles avec lui. Et donc, ce danseur, Pedro, qu'on a invité pour le clip de Incantation. On est allé dans une vieille église dans laquelle on avait fait un concert avec Madeleine et avec justement une circassienne. Là, c'était encore un autre partage de disciplines. C'est une église désacralisée qui se situe entre Nantes et Rennes, à Nozay. Vieille église qui a une charpente en forme de coque de bateau renversée. C'est très très beau comme lieu. Et quand on avait joué là-bas, on s'était dit « Ah, on reviendrait bien un jour pour faire un clip dedans et tout ». Et donc, ça n'a pas loupé. Quand on a imaginé un lieu, on les a contactés. Et l'association qui s'occupe du lieu nous a gentiment donné les clés et tout. Donc, voilà. Et Pedro, qui est un excellent danseur, on lui a donné un peu carte blanche en lui disant « Fais ce que tu veux, fais ce que la musique t'inspire. » Et nous, on est là, on nous voit à peine dans le clip, on nous voit juste un peu, on sait pas trop qui on est un peu les gardiens du temple, là, et on entoure Pedro qui, petit à petit, va se mettre en giration, voilà, qui se met à tourner avec son bâton. C'est de là aussi que vient le nom « les orbes », parce que les orbes, c'est le fait de mettre en mouvement un corps de manière circulaire, en fait. Donc c'est pour ça qu'après ça a créé le mot orbite par exemple, qui est de tourner autour.
Ah, j'irai voir, c'est vrai que j'ai écouté, mais je suis pas allée regarder.
Ouais, ça vaut le coup parce que Pedro c'est un excellent danseur, un très beau danseur et tout. Il a une gestuelle qui est vraiment, vraiment super et avec la musique, ça colle vraiment très bien. On est très content du clip. Ouais.
Donc au niveau de la musique, hein, c'est vrai que tu t'es libéré du texte, mais par contre, tu mets par écrit, tu as écrit une nouvelle, tu as écrit, je crois, des contes, des pièces de théâtre. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Comment est-ce que tu crées?
Alors, ces dernières années, je crée plus dans ce sens-là. Pour le coup, j'ai fait, mais pour le moment, j'écris plus du tout. Moi, j'ai écrit une nouvelle et puis une pièce de théâtre. La nouvelle que j'ai écrite, ça s'appelait « Dealer que j'ai vécu ». C'est que à l'époque, moi, j'étais pas encore musicien professionnel, mais je travaillais dans un centre d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Donc, je travaillais avec les demandeurs d'asile et les réfugiés.
D'accord. Donc, tu étais vraiment au cœur de...
Voilà, c'est pour ça que l'histoire que raconte cette nouvelle, c'est une histoire d'amour entre un jeune sans papier et une jeune Française. Il lui écrit une lettre pour revenir un peu sur tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et on découvre à la fin que en fait il est en centre de rétention et qu'il va se faire expulser. Dans le bouquin, il commence par ça. Et quand on l'a mis en scène, la metteuse en scène avec qui j'avais travaillé, Claudine Merceron, avait dit non, on va pas savoir dès le début du spectacle qu'il est en centre de rétention. On le saura qu'à la fin. Donc elle avait inversé un peu le texte entre le début et la fin. L'idée, c'était vraiment de défendre le fait que bon, c'était il y a quand même 15 ans maintenant. Qu'on était plus sensible aux gens, moi je trouve, quand les gens sont incarnés, personnifiés, que quand on est avec des chiffres, et que du coup c'est pour ça que la nouvelle s'appelait « Dealer que j'ai vécu », parce que c'était pour dire que que j'ai vécu, que j'ai été quelqu'un et pas juste un numéro parmi tant de personnes, parmi tant de sans-papiers, d'expulsés, de choses comme ça. Et voilà, j'ai écrit ça en 2009. Et après, j'ai écrit une autre pièce de théâtre qui s'appelait En lutte, qui était rien à voir, c'était sur les luttes ouvrières, d'imaginer deux ouvriers qui tiennent un piquet de grève pendant une nuit devant leur usine. Et il y a un vieux, un jeune, et le vieux qui est syndicaliste, qui a été joué par Didier Bardoux, qui est un comédien du Mans excellent et qui collait tellement en rôle que les gens qui le connaissaient pensaient que j'avais écrit le rôle pour lui, alors que je le connaissais pas avant ça. C'était un peu l'ouvrier, fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, syndicaliste, puis un peu fort en gueule et tout, et en même temps qui gueule beaucoup et puis qui a un cœur tendre derrière tout ça. Mais et puis le jeune qui est plus pragmatique, qui lui vient de l'intérim, c'est la première fois qu'il était embauché en CDI, quand l'usine a annoncé qu'ils allaient fermer, qui prend les choses avec plus peut-être de recul, et en même temps, au final, il y a des rôles qui s'inversent et tout ça. Enfin voilà, c'est le temps d'une nuit de discussion autour de ça. J'ai écrit des contes, parce que j'ai eu un spectacle qui s'appelait Les Contes du bout de la branche, qui était avec Myriam Albertier, qui est conteuse et danseuse. Il y avait peu de danse dans le spectacle, mais disons qu'elle avait une gestuelle de danseuse, quoi. Disons que elle utilisait beaucoup son corps d'une manière pas comme tout le monde, quoi. On avait là le fil rouge de ce spectacle-là, c'était la question de la diversité, mais dans plein de domaines. Donc, il y avait des contes qui parlaient de la biodiversité, d'autres contes qui parlaient de la diversité alimentaire, d'autres contes de diversité sociale. Enfin, voilà, en se disant que, en fait, la diversité, c'est dans tous les domaines, c'est une notion qui est assez fondamentale. Dans l'alimentation, si on mange qu'un seul aliment, on va finir par avoir de gros problèmes. Dans l'écologie, si on roule tous avec le même carburant, même s'il est bio, on va avoir des sacrés problèmes. Enfin, voilà. Et si on, dans une société, on est tous pareils, tous blonds, aux yeux bleus, ben, on va aussi avoir des sacrés problèmes. Donc, dans tous les cas, la diversité, c'est toujours un signe de vitalité et puis d'enrichissement des choses. Puis en parallèle de tout ça, moi, c'était, bah, j'écrivais des chansons et des textes pour ça. Quand j'étais adolescent et tout, j'écrivais des chansons d'ado, évidemment. Je parlais de moi et tout ça, mais de toutes mes turpitudes. Mais depuis pas mal d'années, j'ai plutôt refusé de chanter. J'avais pas envie de que je sois le sujet en fait des chansons. J'ai toujours plutôt pris des sujets de société ou des choses qui me touchaient. Puis depuis quelques années, j'ai plus de sujets qui me donnent envie d'écrire pour l'instant, mais je le vois pas comme un truc qui m'attriste, parce que je parlais tout à l'heure, on parlait du parcours d'artiste où on évolue vers différentes choses et puis il y a des choses qui changent et tout ça. Moi, je le vois plutôt comme ça, c'est que je suis dans une phase à l'heure actuelle où j'écris pas, mais j'ai pas forcément envie d'écrire, en fait. J'ai pas de choses qui ont besoin de sortir de cette manière-là. Donc, c'est pas quelque chose qui me manque, en fait, ou qui me stresse, quoi, de me dire « Ah, merde, pourquoi j'écris plus et tout, j'ai plus d'inspiration. » Parce qu'au contraire, j'ai plein d'inspiration pour plein de choses en musique et en chant et tout ça, et ça, j'en manque pas, mais sur la que ça sorte sous forme écrite, j'ai pas de sujet qui me vient comme ça, quoi. Donc je me dis tant que j'en ai pas, et puis peut-être que ça reviendra et j'en serai très content, et voilà, mais on verra.
Oui, mais tu disais que tu avais plein d'inspiration en chant et en musique, et puis tu t'entoures hein, de diverses personnes avec qui tu co-crées, avec qui tu collabores, et puis tu as diverses activités. Est-ce qu'il y a une inspiration ou une découverte que tu as eue récemment en lien avec la musique ou la voix ou l'interprétation que tu aimerais nous partager ?
Je suis pas très tendance dans les musiques actuelles et tout ça.
Alors, pas forcément tendance, hein, ça peut être quelque chose de personnel, que quelqu'un, un proche, t'a inspiré ou...
J'en parlais tout à l'heure, mais clairement, moi, un des maîtres en la matière par rapport à ma pratique du chant qui m'inspire à fond, c'est vraiment Dafer Youssef, parce que je trouve qu'il est assez unique dans sa façon de chanter. C'est vraiment... Après, il y a aussi un chanteur que j'aime beaucoup, qui est un chanteur sénégalais, qui s'appelle Ablaye Sissoko, voilà, qui est joueur de kora aussi. Moi, je suis surtout fan quand il chante. J'adore.
Oui, j'aime beaucoup aussi.
J'adore son chant. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que j'ai choisi pour le jour où je serai mort et à mon enterrement pour qu'on passe une musique d'Ablaye Sissoko.
C'est bien, t'es prévoyant.
Parce que je trouve ça tellement touchant. Ah bah, je préfère au moins avoir juste choisi ça, quoi. Je suis pas prévoyant pour autre chose, mais je me dis, tant qu'à faire, autant avoir une chanson qui me plaise et qui reste. Mais ouais, lui, il fait des duos avec un trompettiste allemand qui s'appelle Victor Goetz.
Alors moi, je l'ai pas vu en concert avec le trompettiste. Après, il avait tellement de projets aussi que...
Ouais, il est prolifique, hein. Ils ont fait trois albums, je crois, tous les deux. Et le duo kora, trompette et chant, c'est très très beau. Vraiment super. Et après, donc moi je parlais tout à l'heure de Bachar Markhalifeh, qui est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, qui m'inspire bien, que je trouve vraiment chouette. Et puis ces derniers temps, j'ai découvert un groupe, alors là, qui a rien à voir musicalement, mais que je trouve très très original, qui s'appelle l'Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. C'est des Suisses. Ils doivent être 12 ou 13 sur scène, dont au moins la moitié de filles. Donc c'est assez rare pour être noté. Enfin, ils sont très mixtes au niveau de leur équipe. Et puis il y a plein de trucs, il y a des percus, il y a une contrebasse, il y a un xylophone, il y a des guitares électriques et tout. C'est très original au niveau du style, c'est un peu rock, un peu fanfare, un peu... Voilà, je ne sais pas si tu connais déjà, mais...
Non, j'irai écouter. Et je mettrai le lien en barre d'infos.
Ils ont un morceau qui s'appelle So Many Things, là, qui est vraiment très chouette. C'est des morceaux qui durent 10 minutes. Hein, c'est... Moi, je les ai vus en concert avant que moi, je joue. J'étais là, waouh. Super, assez ovni comme truc, quoi. Puis après, il y a un artiste que j'aime bien, ce qu'il fait. Alors là, c'est de l'électro, c'est très différent. Et surtout, lui, j'aimerais bien un jour le solliciter parce qu'il fait des trucs, il fait des performances avec d'autres gens. Voilà, je sais pas s'il écoute ton podcast, tu vois, mais...
C'est plutôt des chanteurs, mais...
C'est un artiste qui s'appelle Rhône, qui a bien la cote en France, en électro en ce moment, Rhône, R-O-N-E. On l'a retrouvé notamment dans le dernier film de Audiard, là, le film qui était en noir et blanc, passe à Paris, chez les jeunes parisiens. Il fait vraiment des très chouettes morceaux, et surtout, j'ai vu sur Internet, il fait beaucoup de choses avec des chanteurs, justement, qui viennent sur ses musiques, en fait, hein. Mais c'est des choses qui m'inspirent bien. Je me dis, un jour, si on a moyen de se croiser, j'aimerais bien lui proposer ça au culot et puis voir si ça le tente.
Oui. Donc, tu es le fondateur de la compagnie Anaya depuis 2010. Comment est-ce de diriger une compagnie ?
Moi, je trouve ça assez simple parce que je la dirige pas vraiment, en fait. Moi, je me vois plus comme le trait d'union entre tous les projets et avec les gens, mais... Chaque spectacle fonctionne déjà de manière un peu autonome. Puis moi, à l'intérieur, dans ma façon de travailler, j'aime bien être vraiment le plus horizontal possible, quoi. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a plein de domaines où j'ai plutôt tendance justement à me dire « Oh là là, moi, ça, j'y connais rien » ou « Je m'y connais beaucoup moins bien que les collègues. » Donc moi, je sais que quand je monte un spectacle, j'aime bien varier les disciplines, mais j'aime bien pas tout prévoir à l'avance parce que en fait... Justement, par exemple, sur le dernier en date qui s'appelle Pierrot, donc ce que je disais, c'est que c'est basé sur un texte de Daniel Mermet, qui est l'animateur de l'émission Là-bas si j'y suis. On est deux musiciens et un plasticien, enfin quelqu'un qui fait des performances visuelles en direct sur scène, en fait. Stéphane Delaunay, qui est un artiste bricoleur de génie, enfin j'aime vraiment beaucoup son travail. Lui, il fabrique des sortes de paysages, de maquettes, de choses et tout, des petits manèges, et après il les filme, et puis c'est projeté par un vidéo proche sur des cubes en bois et tout ça. Moi j'avais une idée un peu globale de la chose, mais pour le travail de Stéphane, moi je suis pas du tout dans les arts plastiques, c'est pas mon truc. Je me suis bien gardé de lui dire, voilà, je cherche quelqu'un pour qu'il me fasse ça, quoi. Moi, je lui dis un peu ce que j'attendais dans les grandes lignes, et voilà. Et après, je lui dis, ben, montre-moi ce que tu pourrais proposer, est-ce que ça t'inspire, et tout ça. Donc, je sais que un peu dans tous les domaines des gens avec qui je vais travailler, je trouve que je peux pas être spécialiste de la musique, de l'art plastique, de la danse, de tout ça. C'est pas... Alors, il y en a peut-être qui arrivent à faire tout, mais moi, c'est pas... J'y arrive pas. Donc, je préfère... Comme pour Pedro avec le clip, par exemple, j'ai dit voilà un peu les couleurs de l'idée globale du scénario du clip qu'on a imaginé, mais maintenant à l'intérieur de ça, toi, qu'est-ce que tu proposes avec ton savoir-faire et ton média qui est la danse, quoi. Donc moi je fonctionne beaucoup comme ça. Du coup, c'est assez, je trouve pas ça trop contraignant. Enfin, je me sens pas vraiment à la tête de la compagnie, quoi. C'est pas, je me vois plus comme quelqu'un qui va impulser des idées et des choses pour qu'on fasse des choses à plusieurs, qu'on les fasse ensemble, mais après, à l'intérieur, on les fait vraiment ensemble, quoi. Et puis, pour l'instant, quand même, j'ai l'impression que mes collègues le perçoivent comme ça, et du coup, ça se passe bien. Enfin, je travaille depuis longtemps avec les mêmes personnes. Alors, des fois, il y a des nouvelles personnes sur des nouvelles équipes, mais sur la durée, quand même, la plupart des gens aiment bien travailler avec moi, et du coup, on le fait voilà, avec plaisir, et puis c'est de manière assez simple, quoi.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ta collaboration sur le dernier album de ton frère ?
Je vais parler de ça, mais de manière plus large, parce qu'on est allé plus loin que la collaboration sur un album. Donc Mathieu, c'est Mathieu Saglio, il est violoncelliste, il vit en Espagne, à Valence, depuis 20 ans maintenant, même un peu plus. C'est un violoncelliste vraiment virtuose, il est... très très doué, et puis il côtoie les grands noms de la scène jazz européenne, même pas que européenne. Il fait des albums où il a toujours beaucoup d'invités, notamment les deux derniers où il a vraiment invité plein de monde, El Camino de los Vientos, qui est l'avant-dernier, où là il y avait plein d'instrumentistes et chanteurs un peu partout, mais du coup voilà, du beau monde. Il y a Vincent Perani, il y a Nguyen Lee par exemple à la guitare, il collabore aussi avec Steve Sheehan qui est un percussionniste qui avait monté notamment le projet Hadouk Trio, qui a tourné énormément, qui est très connu en musique du monde. Et puis Steve Sheehan, en fait, on le retrouve dans... Si on ouvre un peu nos pochettes d'albums, on le retrouve partout en world. Et il a joué aussi avec Bob Dylan il y a longtemps, avec Paul Simon et tout ça. Enfin, voilà, du jazz world, vraiment super, super musicien et tout. Et donc Mathieu a monté ce quartet avec Steve Sheehan, Christian Bellum et puis Léo Ullmann qui est au violon. Et après, ils ont, donc c'est, la base, c'est le quartet. Et ensuite, donc, ils ont leurs invités. Et le dernier album, c'est un album qui s'appelle Voices et qui est basé que sur des chanteurs. Tous les invités sont des chanteurs ou des chanteuses. Donc moi, je fais partie de ces invités. Et puis, j'étais déjà dans l'autre album, l'album d'avant.
D'accord, ça, je ne savais pas.
Dans les invités, il y a Alim Kazimov, par exemple, qui est un chanteur... lui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un chanteur kurde qui est vraiment... vraiment excellent. Il est d'Azerbaïdjan, si je me trompe pas. C'est un vieux monsieur qui chante hyper bien. Donc, ça, Alim Kazimov, j'invite les chanteurs à aller écouter. C'est un chant très particulier, chant kurde. Puis une chanteuse avec qui j'ai le plaisir de partager la scène le 14 juillet prochain, c'est Natasha Atlas, qui est invitée sur un des morceaux. Et en fait, on va à un festival qui s'appelle San Javier, où on est déjà allé jouer il y a 2 ans pour l'album d'avant. Donc moi, j'avais pu y aller. Et là, cette fois, on est encore des invités avec le quartet, dont moi et dont Natasha Atlas. Donc on va même faire, a priori, un morceau tous les deux qu'on va chanter en question-réponse. Donc ça, c'est collaboration sur des disques. Et puis, ça fait quelques temps qu'avec Mathieu, on avait envie d'aller plus loin que ça dans la collaboration. Mais on habite un peu loin, donc c'était pas évident. Il fallait trouver la bonne fenêtre, le bon moment pour le faire. Et on a pu le faire, puisqu'on a fait notre première tournée au mois de juin, là, début juin de cette année, 2023. Et on est allé sous un chapiteau, avec un festival qui s'appelle Sous le Chapiteau, près de Ancenis, entre Ancenis et Nantes, en gros, au bord de la Loire. Et on a pu faire nos 4 premiers concerts de tournée de ce projet qui va s'appeler donc Camille et Mathieu Saglio, tout bêtement, qui est un projet vraiment juste violoncelle et voix avec le sampler.
D'accord, je savais pas.
Ouais, là on a on aura dans je pense que dans 1 an ou 2 on aura un album et tout ça. Enfin, on a fait une captation du concert final dans l'église de notre village. Et puis, on a des tournées en septembre, en avril, en mai-juin de l'année prochaine, tout ça.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Donc ça, c'est un projet qui est tout neuf là et qui demande qu'à éclore.
Très bien, je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que les auditeurs puissent vous retrouver.
Ouais, ouais. Il y aura dans pas longtemps, parce que là, on attend justement le dérochage de la captation qui a eu lieu le 4 juin. Donc il n'y a pas encore de trucs sur Internet, mais dans pas longtemps, il y aura un morceau entier et puis un medley du concert.
D'accord.
Il y aura une page qui va être ajoutée dans l'été, en fait, sur le site de ma compagnie, là, sur assoanaya.fr. Le projet avec Mathieu, on est vraiment très contents de ça. Et puis, bah, symboliquement, c'est quelque chose qui est chouette parce que on est frères tous les deux et moi de jouer avec le grand frère, forcément, c'est un peu.
Beaucoup d'émotions.
Challenge, quoi, voilà, d'aller atteindre le niveau, surtout que le grand frère qui est quand même d'un sacré niveau, donc de voir que. Déjà des collaborations avec ses collègues et tout, c'était chouette, mais là d'être vraiment juste nous deux, c'est quelque chose qui est bien fort et qui nous fait bien plaisir. Et puis on se rend compte que en fait le violoncelle, c'est un instrument qui a quand même une charge positive dans l'esprit des gens. C'est quand même tout le monde adore le violoncelle. Je trouve que c'est des réactions toujours très spontanées. Ah, c'est un instrument que j'adore et tout. C'est une phrase que moi j'ai entendue plein de fois en parlant de ça, du violoncelle de mon frère. Et je me rends compte que la voix aiguë chez les hommes, c'est aussi quelque chose ce que je disais tout à l'heure qui touche beaucoup les gens. Donc en fait, le potentiel d'un duo violoncelle et voix aiguë et tout, c'est assez puissant en termes de rapport au public et pour aller les toucher, vraiment quoi. Et on a fait 4 concerts, on a eu des réactions très très fortes des gens quoi, qui ressortaient de là en disant oh là là, ils avaient l'impression d'avoir fait une pause.
Oui.
Une pause dans tout ce qu'il y a autour, quoi, de ce qui se passe, qui est un peu anxiogène quand même, à l'heure actuelle et tout, où ils sortaient de là en disant, waouh, là, c'était une bulle, quoi. Et ça, je suis bien content de ça parce que c'est toujours un peu un objectif, je trouve, quand on est artiste, c'est de créer une bulle. Même si on peut parler du monde qui nous entoure et tout ça, c'est un peu notre rôle, mais je trouve qu'un spectacle qui marche bien, un concert qui marche bien, on coupe un peu tout là et puis, pouf, on est dedans et d'un coup, le temps, c'est comme si ça s'était arrêté et tout ça. Mais du coup, je trouve que cette bulle, elle se casse un peu avec tous les gens qui sont tout le temps avec leur téléphone. Maintenant, quand il y a des concerts ou des spectacles, les spectacles en salle, moi, ça se fait pas trop, il y a pas trop le droit. Mais et ça, je trouve que c'est un truc qui est dommage, qui empêche un peu de se laisser happer par justement cette bulle-là, quoi.
C'est vrai. Et en même temps, moi, je trouve que quand on n'est pas des grands artistes, c'est hyper précieux parce que, évidemment, pas de passer tout le concert à filmer, mais de filmer un petit extrait et ensuite le partager sur les réseaux, parfois, ça peut aider à contribuer à faire connaître. Donc,
Ouais, peut-être. Après, moi, je suis toujours très frileux par rapport à ça parce que, enfin, bon, après, moi, déjà, j'ai pas de...
Oui.
J'ai pas de smartphone et je vais pas sur les réseaux, donc t'as peut-être vu que je suis pas très présent dessus. C'est ma collègue qui s'occupe de ça au niveau de la compagnie. Du coup, moi, je suis toujours un, ouais, je suis un peu frileux. Je me dis que ce sera toujours un peu de moins bonne qualité que les trucs que nous, on aura fait avec des pros qui nous filment et qui, tu vois, avec des choix et du son bien fait.
C'est sûr. Mais après, tu vois, moi, j'avais la chanteuse, tu dois la connaître, Loubiana, qui s'accompagne à la Cora. Elle racontait dans le podcast que elle était à Los Angeles, elle cherchait des débouchés, elle payait pour aller dans des scènes ouvertes et qu'elle a été filmée alors qu'il n'y avait plus personne par une serveuse et que un grand producteur avait vu cette vidéo, il l'avait contactée et que...
Oui, ça peut être la magie d'Internet, c'est sûr. Mais bon, c'est, je trouve que c'est un peu de magie pour beaucoup de choses qui sont moins bien.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être un artiste encore plus épanoui ?
Toujours souhaiter évidemment aller jouer sur des scènes encore un peu plus prestigieuses, mais honnêtement, moi je suis déjà bien comme ça, quoi. J'arrive à avoir un bon équilibre dans ma vie perso, ma vie de famille et puis ma vie professionnelle.
Comment est-ce que tu fais pour concilier le tout, arriver à gérer ton temps?
Ça fait partie justement des avantages. On parlait tout à l'heure de la compagnie et d'être un peu à la tête du truc. Ça fait partie, pour le coup, des avantages, c'est que j'ai un peu la main quand même sur l'agenda au global. Donc, du coup, ça permet des fois de freiner aussi des choses, de dire non, telle période, on prend pas les dates ou on bosse pas parce que ça fait trop. Après, ça dépend des périodes, évidemment. Moi, je travaille beaucoup l'hiver. J'ai des périodes d'hiver, notamment les deux derniers où j'ai travaillé énormément et presque un peu trop, où je sentais que en termes de fatigue et d'avoir l'esprit tout le temps là-dedans et d'avoir la sensation de faire que travailler, c'était des petits signes comme ça qui ressemblaient un peu à ce qu'on peut appeler le burn-out. Je me suis dit, oula, va falloir y aller doucement parce qu'on est quand même, on fait un métier qui est difficile à faire, on peut pas le faire à reculons, quoi. D'aller chanter en n'ayant pas envie, je pense que ça paraît dur à envisager, quoi. Mais moi, à l'inverse, de pas avoir assez de travail, c'est aussi stressant par rapport à notre statut d'intermittent, par rapport au développement un peu de nos projets, de notre carrière et tout ça. Donc c'est toujours un équilibre entre trop ou pas assez. Et moi, pour le moment, j'ai vraiment l'impression que ça va, que je suis dans un équilibre qui me convient bien. Et je cours pas après la notoriété. C'est pas un truc qui me... C'est pas un objectif du tout, quoi. J'ai pas du tout envie d'aller dans des trucs... Tant que je reste droit dans mes bottes, et j'ai pas envie d'aller faire des choses qui vont aller chercher que la notoriété. Évidemment, si elle vient un peu, pourquoi pas, je vais pas cracher dessus. C'est pas une fin en soi, quoi. L'objectif, c'est de l'être juste assez pour pouvoir être... Moi, je joue beaucoup dans les théâtres municipaux autour de chez moi. Moi, je suis dans les Pays de Loire. Et dans toutes les petites villes et tout ça, il y a des scènes de 300, 400, 500 places qui sont quand même des beaux théâtres, le théâtre d'Ancenis, Châteaubriand, tout ça. Et du coup, ça me va très bien. On a toute la technique qu'il faut. Il y a du public. C'est des super conditions. C'est pas les salles parisiennes où on va. On s'est posé la question, par exemple, avec Azadi, d'aller jouer dans les salles, mais qui sont en fait des salles qui sont petites, où on doit toucher que la recette, donc souvent on perd de l'argent, et où on n'arrive pas trop à faire venir les pros, et en fait c'est juste justifié de la localisation dans Paris, qui est prestigieuse, et en fait, moi j'ai pas trop envie de rentrer dans cette démarche-là, parce que je trouve que c'est tant que je peux ne pas rentrer dans ce jeu-là, ça me va bien de réussir à développer le réseau localement. Et puis même en termes d'écologie aussi, je trouve ça bien aussi de pouvoir jouer autour de chez soi et de pas être tout le temps sur la route à l'autre bout du monde. L'autre jour, j'ai refusé par exemple d'aller faire une date en Afrique du Sud parce que je trouvais que en 2023 c'est plus possible. Alors si on fait une tournée de partir plus longtemps et c'est pourquoi pas, mais c'est trop loin. Je pense que dans nos métiers, on est obligé là de se poser un peu la question, même si maintenant j'ai un collègue qui vit en Espagne, donc mais pareil, Mathieu, quand il vient, on a, à chaque fois, c'est une semaine, on a au moins 3-4 concerts d'affilée et tout ça. Donc, c'est obligé de prendre ça en compte quand même.
Oui, mais je sais que c'était Laila Martial, elle en avait parlé hein, dans son épisode. Elle avait créé avec d'autres artistes pendant le confinement une charte hein, pour l'écologie dans le spectacle vivant, pour aider voilà, à grouper les concerts et pas faire juste une date par-ci, une date par-là. Et...
Bah nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait au niveau de la compagnie, quoi. On fait vraiment, on va pas à l'autre bout de la France pour une date, quoi. On fait vraiment attention à ça. Et puis, en plus, même en termes de fatigue et tout, c'est fatigant, quoi, de faire 7-8 heures de route pour jouer une heure à repartir le lendemain. C'est...
Oui, c'est très fatigant.
On verra après comment les choses se développent ou pas. Et si, des fois, il faut savoir aussi mettre des barrières et tout, c'est pas évident, hein, mais être dans le principe et quand on est face au truc qui se concrétise, dire non, mais ça, je vais refuser pour les principes, c'est pas facile à faire. Hein.
Ça demande d'avoir, oui, confiance.
Ouais. Ouais, et puis d'arriver à être bien au clair avec soi, quoi. Avec ce qu'on veut et ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut pas. Moi, je sais que maintenant, je me dis, bon, d'aller à l'autre bout, je l'ai pas fait beaucoup, mais d'aller à l'autre bout de la planète pour jouer un truc, ça, c'est...
Oui. Écoute, je te souhaite plein de beaux concerts et puis de continuer de cultiver et de profiter de ce que tu as déjà, notamment en famille.
Merci bien.
C'était un plaisir d'échanger avec toi et je te dis à bientôt.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ton invitation.
Merci. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
La clé de la voix.
J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolaine ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.